Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h, donc en français sur nos ondes. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de sport, nous parlerons également de Marie-Antoinette. Et oui, c'est la commémoration de son exécution, pardon. Et nous parlerons également de comment faire votre propre miso chez vous, en Australie. On débute ce jour, cette émission avec le journal et les grands titres. La Tasmanie qui entre dans un confinement de 3 jours après une violation de quarantaine. Un député britannique poignardé à mort dans sa circonscription locale. Et en sport, le joueur de tennis numéro 3 mondial, Stefanos Tsitsipas, a été éliminé de la compétition de l'Indian Wells. On commence donc ce journal avec le Covid et l'état du Covid, le point Covid en Australie. Donc pour ce samedi, aucun nouveau cas de coronavirus n'a été enregistré en Tasmanie, alors que l'état et l'île est maintenant en confinement donc pour 3 jours. Le premier de l'état, Peter Godwin, a annoncé cette mise en confinement à la suite qu'un homme infecté de Nouvelle-Galles du Sud se soit échappé de la quarantaine de l'hôtel dans lequel il était. L'homme de 31 ans a refusé de coopérer avec les traceurs de contact après avoir été arrêté dans la banlieue nord de Hobart plus tôt dans la semaine, passant 18 heures dans la communauté, dont 2 maisons, un supermarché Woolworth et un parc. La Tasmanie n'a aucun autre cas actif pour le moment. Il y a donc pour l'instant, grâce à des mesures strictes aux frontières, l'État n'a enregistré que 3 cas cette année. Le Victoria a enregistré aujourd'hui 1993 nouveaux cas de Covid-19 et 7 autres décès, portant le nombre de morts de l'épidémie dans la vague actuelle à 138. L'État est en passe de franchir les 70% de double vaccination au cours de la semaine à venir. Les autorités sanitaires confirment que plus de 40 000 doses de vaccins ont été administrées au cours des dernières 24 heures. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg a appelé le gouvernement d'ailleurs du Victoria à assouplir les restrictions avec la Nouvelle-Galles du Sud. Il dit que les résidents du Victoria ont fait de bonnes choses et ils ont tout bien suivi le plan en se faisant vacciner et devraient avoir de même liberté une fois les jalons de vaccination de 70 et 80% atteints. On écoute Josh Frydenberg.
We may lose the curfew at 70%, but you still can't move more than 25 kilometres from your home. And now we have this ludicrous and unacceptable situation where somebody in Sydney can travel nearly 1,000 kilometres, whereas someone in Melbourne can't even go and visit their family in the same place. Victorians are looking at what's happening in New South Wales and say, why do those people get the freedoms that we are not getting? Melburnians have spent more time in lockdown than any other city in the world.
C'était donc Josh Frydenberg. La Nouvelle-Galles du Sud, on en a tout juste parlé, a enregistré 319 nouveaux cas de Covid-19 et 2 nouveaux décès. L'État devrait atteindre 80% de vaccination à double dose d'ici à la fin de ce week-end, avec donc de nouvelles restrictions qui devraient s'assouplir dès lundi prochain. La Nouvelle-Galles du Sud d'ailleurs, où le gouvernement a également défini une nouvelle politique de logement pour l'État, y compris le financement de logements sociaux et l'aide au loyer. 183 millions de dollars sont mis de côté pour soutenir le logement social et la construction de 1400 logements, principalement à l'ouest de Sydney. La ministre de l'eau, de la propriété et du logement, Melinda Pavey, a déclaré que l'accent serait également mis sur le logement autochtone.
This is what people want to see, jobs being created through construction and 1,400 new homes we expect across New South Wales and Western Sydney. It's about additional housing and it's also in the Aboriginal housing space, $40 million towards that, regional housing space and Western Sydney. We've got some exciting projects like this one on the drawing boards and it is also going to ensure that we can build some more, employ some more people and get some new homes.
13h05. On part maintenant dans l'actualité travers le monde. En Afghanistan, des kamikazes ont tué au moins 47 personnes et blessé 70 autres lors d'une attaque contre une mosquée chiite dans le sud du pays. Des témoins oculaires disent que les trois kamikazes étaient impliqués, mais personne n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque. L'explosion survient quelques jours après une attaque meurtrière de l'État islamique contre une mosquée au nord de Kunduz. Le point avec Sonia Djelazi pour RFI.
La mosquée chiite Bibi Fatma était bondée au moment de l'attaque. Sur les vidéos insoutenables qui circulent sur les réseaux sociaux, prises par les premiers témoins, on peut voir des corps sans vie, ensanglantés, certains recouverts de draps ou de tissus sur les tapis de prière couverts de sang. Devant l'hôpital Mirwais de Kandahar, où les blessés sont pris en charge, des dizaines de personnes font la queue pour donner leur sang car les blessés sont nombreux. La population est en colère, lâche un résident de Kandahar joint par téléphone. On ne peut rien attendre de ce nouveau gouvernement, même pas la sécurité, dit-il. Tous les regards se tournent vers la branche afghane du groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque contre une mosquée chiite à Kunduz vendredi dernier. La peur a grimpé d'un cran dans la communauté chiite afghane, nous explique une consœur Hazara à Kaboul. Nous sommes terrorisés, dit-elle. Un jeune étudiant chiite, aussi contacté par téléphone et qui vit à Kaboul, nous explique limiter ses sorties. En plus des exactions commises contre les chiites par les talibans, nous subissons aussi les attaques de Daesh, lâche-t-il. Confiance en désespoir.
Voilà donc pour la situation en Afghanistan. Au Royaume-Uni, la police antiterrorisme a été chargée de l'enquête sur l'assassinat à l'arme blanche d'un député qui était en pleine séance de rencontre avec ses administrés. Le député David Ames, âgé de 69 ans, a été poignardé peu après midi. Les explications de Marie Baudéal.
L'enquête a été confiée aux services antiterroristes. Ils vont devoir déterminer s'il s'agit d'un attentat. David Ames tenait une permanence où il rencontrait ses électeurs. C'était absolument épouvantable, raconte son conseiller qui était présent. Un homme est entré en courant dans l'église, s'est jeté sur le député et l'a poignardé à plusieurs reprises. Il a été rapidement pris en charge par les services d'urgence sur le lieu de l'attaque, mais a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Boris Johnson, le premier ministre britannique, lui a rendu hommage. Il était l'une des personnes les plus gentilles, les plus agréables et les plus douces en politique. Un suspect de 25 ans a été immédiatement arrêté. Le couteau a aussi été retrouvé. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a demandé à toutes les forces de police de revoir immédiatement les dispositions pour protéger les députés. Ce meurtre relance le sujet de la sécurité des parlementaires. Il y a 5 ans, la députée travailliste Jo Cox a été assassinée alors qu'elle tenait une permanence dans une bibliothèque.
C'était Marie Modéal pour RFI. La COP26, la conférence sur le climat de Glasgow, qui est sur le point de se tenir, et ce, avec l'ombre de l'absence de marquantes possibles, hein, comme les Russes ou encore les Indiens. Les Australiens seront là avec le Premier ministre Scott Morrison, qui a donc décidé de s'y rendre, non sans traîner les pieds. Vincent Sorio.
Il a cédé sous la pression de ses principaux alliés, Joe Biden et Boris Johnson. Mais le cœur n'y est pas. Scott Morrison se rend visiblement à la COP26 à reculons, car si la plupart des grandes puissances veulent éradiquer les émissions de gaz à effet de serre dans les 25 ans qui viennent, c'est le fameux objectif zéro émission d'ici à 2050, l'Australie ne s'y est toujours pas engagée et se fait taper sur les doigts de toutes parts. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, parle d'efforts insuffisants. Le prince Charles, dans l'une de ses rares déclarations publiques, s'est même fendu d'un cri d'alarme. Ne pas aller à la COP, disait-il, c'est rater la réunion de la dernière chance. Scott Morrison a donc fini par craquer. Maintenant, va-t-il sauter le pas et annoncer à l'occasion de cette COP que l'Australie entend rattraper son retard dans la lutte contre le changement climatique? C'est l'un des grands enjeux du sommet pour les pays de la région Asie-Pacifique.
C'était Vincent Sorio pour RFI. 13h09. La création du Bitcoin au Salvador préoccupe les écologistes avec des quantités massives d'électricité pour alimenter les ordinateurs alors qu'ils effectuent les calculs mathématiques complexes vérifiant les transactions pour la création de la crypto-monnaie. Le Bitcoin a eu un cours légal en septembre. C'était créé par le président Nayib Bukele qui a promis d'utiliser une énergie renouvelable bon marché pour ce qu'on appelle donc le minage des coins, des Bitcoins. Les critiques disent que l'énergie renouvelable devrait plutôt aller aux résidents et non à des opérations minières de crypto-monnaies, disant qu'elles ont une empreinte écologique énorme à la fois sur donc, l'écologie et sur l'empreinte carbone. Daniel Alvarez, le président de la commission exécutive hydroélectrique de Rio Lampa, a déclaré que les ressources géothermiques qui alimentent les ordinateurs proviennent de la vapeur à haute pression produite par la chaleur volcanique souterraine. On l'écoute.
We don't depend on oil, we don't depend on natural gas, and we don't depend on any resource that is not renewable, just water heated by the power of the earth. That generates electric power. With this, we are making a first step, being the first country in the world to have the Bitcoin as a legal tender, and we can also generate more resources through Bitcoin mining by using this energetic resource.
13h10 en Italie, la compagnie aérienne Alitalia a éteint ses derniers moteurs après 74 années de service. Alitalia est donc morte et elle est remplacée par une autre compagnie aérienne, ITA, Abla Jonaidi.
Alitalia, 74 ans d'activité, un logo vert et rouge sur fond blanc comme le drapeau national et une histoire qui se confond avec celle de l'Italie contemporaine. Symbole de sa réussite industrielle après la Deuxième Guerre mondiale, elle est devenue la 7e compagnie au monde dans les années 1970. Puis c'est le déclin économique. Le fleuron national n'a pas su se renouveler et prendre le virage du long courrier notamment, se laissant rogner des marges par les compagnies européennes à bas coût. Pour sauver le groupe endetté, l'État a déboursé en 20 plus de 13 milliards d'euros, mais à la fin, c'est plus de 11 milliards d'euros de dettes que le groupe accumule. Il est mis sous tutelle publique en 2018 pour lui éviter la faillite et trouver un repreneur. En vain, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sonnent le glas d'Alitalia. Au terme de longues négociations avec Bruxelles, c'est ITA qui lui succède. La petite société reprend seulement un tiers de la flotte et 3 000 employés d'Alitalia sur 10 000 cette année. Mais le personnel de la compagnie historique doute que la nouvelle entité soit assez viable pour embaucher 5750 employés en plus en 2022, comme cela a été annoncé.
Allez, un mot de sport pour conclure ce journal. En tennis, Bechtchaliyevski, 29 ans, a enregistré la première victoire de sa carrière en battant le numéro 3 mondial Stefanos Tsitsipas et en se qualifiant pour la demi-finale de l'Indian Wells. Donc classé 36e mondial, sa précédente victoire jusqu'à ce niveau était contre Juan Martín Del Potro, numéro 4 mondial, lors de la finale à Pékin en 2018. Coup d'œil météo pour aujourd'hui. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 16. Hobart, 14. Canberra, 16. Sydney, 23. Newcastle, 25. Brisbane, 28. Cairns, 32. Et Darwin, 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. La Tasmanie qui entre donc en confinement de 3 jours après qu'un homme ait violé la quarantaine. Un député britannique poignardé à mort dans sa circonscription locale. Et en sport, on vient de le voir, le numéro 3 mondial Stefano Tsitsipas a été éliminé de la compétition de l'Indian Wells. 13h13, courte pause et on reparle de sport dans quelques instants. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports pour aujourd'hui et Journal des sports spécial Tour de France, puisque cette semaine, on a eu la révélation du Tour de France 2022 qui aura lieu, bien entendu, sur SBS. Tour de France du 1er juillet au 24 juillet 2022 avec un tracé au départ de Copenhague au Danemark et pour arriver donc à Paris le 24 juillet. Passage, bien entendu, par les Alpes, par les Pyrénées. Détail de ce parcours avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.
Tout pourra jouer partout sans aucun doute sur le Tour de France. La question pour un champion est de se dire où vais-je gagner, mais surtout où ne vais-je pas le perdre. Et il sera possible de le perdre absolument partout. Sur les ponts géants du Danemark dès le deuxième jour, avec 18 des 20 derniers kilomètres au-dessus de la mer Baltique, dans le vent des monts du Boulonnais en allant vers Calais, sur les pavés avant Arambert, et puis évidemment tenter de le gagner essentiellement dans la montagne, bien sûr, avec une première semaine qui a été conçue, oui, pour un type de coureur particulier, sans le moindre doute. Il y a un trio de puncheurs d'exception, de coureurs d'exception qui nous emballent. Il s'appelle Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, Wout Van Aert, le Belge, Julien Alaphilippe, notre double champion du monde. Et avec, dans les 10 premiers jours notamment, des montées courtes mais sèches où leur talent peut s'exprimer. On a vu que la première semaine du Tour de France l'été dernier a été vraiment emballante, nonobstant les chutes bien sûr. Mais il y a eu des émotions, il y a eu des exploits, des attaques de loin, et ça c'est formidable pour tous les fans de cyclisme. Et on espère évidemment que ça se reproduira, le terrain est là pour ça.
Voilà donc Christian Prudhomme, Tour de France masculin donc, qui aura lieu du 1er juillet au 24 juillet. Quelques réactions, celles de coureurs, notamment eh bien, le champion du monde lui-même, Julien Alaphilippe.
Bah, c'est toujours un moment sympa bien sûr, et c'est un très beau tracé. Une première semaine qui s'annonce palpitante avec différents terrains d'expression, contre la monte, étape de bordure, des pavés, arrivée puncher, voilà, ça va être vraiment une première semaine. Il y aura du mouvement dans tous les cas, ça c'est sûr. Et pour les téléspectateurs, quand ils suivent le tour, ils sont contents de voir du mouvement, ils sont contents de voir une course qui s'ouvre de loin. Ouais. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire du vélo. J'ai réussi à aller chercher de beaux succès de cette manière et cibler mes objectifs et m'y tenir, que ça marche ou que ça marche pas. Même si oui, je serai toujours acteur de la course parce que je suis comme ça, mais je me fixerai mes objectifs et si ça va un peu moins avant ou après, ben, c'est pas grave. Je pense que j'ai assez à montrer le maillot et je continuerai dans tous les cas de le faire.
Voilà donc pour Julien Alaphilippe. Réaction également celle de Benoît Cosnefroy. Il a porté le maillot à pois sur certaines épreuves du Tour de France. Eh bien, il nous donne sa version de ce Tour 2022.
Oui, il y a des choses à faire. Christian Prudhomme l'a bien souligné avec une petite côte de 1,5 km à 30% à 30 km de l'arrivée. Voilà, il a bien souligné ces petits points-là. Et en tout cas, c'est à moi maintenant de briller sur le Tour de France. J'ai jamais réussi à vraiment avoir ce bon feeling et cette bonne dynamique sur le Tour de France. C'est à moi de trouver les solutions pour justement trouver arriver à briller sur le Tour de France sur une étape, et ça va être, je l'espère, mon objectif cette année, si je suis au départ, mais l'objectif est vraiment de gagner une étape. Cette fin de saison me montre qu'il y a des possibilités de jouer sur le plan physique, mais j'ai pas encore trouvé la clé de la réussite sur le Tour de France.
Voilà donc pour Benoît Cosnefroy. Et tout de suite après le Tour de France masculin, eh bien, il y aura le Tour de France féminin qui prendra son départ de Paris, donc des Champs-Élysées, le jour même de l'arrivée du Tour masculin, pour finir une semaine plus tard sur les pentes de la super planche des belles filles. Description de ce tour, réaction avec la directrice du Tour de France féminin, Marion Rousse.
C'est un parcours qui correspond à pas mal de types de coureuses différents. Il y aura des sprints, par exemple avec la première ou la deuxième étape. Un profil puncher avec l'étape d'Épernay, un air de classique également avec les chemins blancs, et puis les deux derniers jours, ça sera vraiment accès montagne, donc un parcours très équilibré. C'était vraiment très important, je pense, en plus de partir le même jour que la course des hommes, ça va lancer. C'est un premier Tour de France femme avec Zwift. On n'a pas envie en fait de relancer un Tour de France femme, mais vraiment de le créer. Sur une course de 8 jours, on a un peu procédé comme Paris-Nice ou sur le Critérium du Dauphiné. On ne voulait pas des gros écarts non plus après 2 ou 3 jours, parce qu'après, il n'y avait plus d'intérêt non plus. On a envie que ce soit un fil conducteur. Donc, en mettant vraiment les difficultés le dernier week-end, eh ben, on va voir vraiment les meilleures grimpeuses sortir, se mettre en évidence. Et c'est vrai que l'étape du samedi, avec le triptyque Petit Ballon d'Alsace, le col du Plat de Serre-Wassel ou encore le Grand Ballon, plus 3000 mètres de dénivelé, il y aura de quoi faire.
Voilà donc Marion Rousse pour ce Tour de France féminin. Les deux tours, donc masculin et féminin, seront bien entendu à l'antenne de SBS. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour le reste de l'émission. A tout de suite.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était bien entendu Les Innocents avec L'Autre Finistère. On fait un petit retour dans les années 90, début des années 2000, hein, ce mois-ci dans notre sélection musicale. Et bien sûr, Les Innocents, L'Autre Finistère, c'est une vraie chanson où on peut vraiment conduire avec cette chanson. C'est vraiment très agréable. Enfin bon, 13h24 minutes, on va faire une courte pause et on va parler eh bien, de notre rétrospective. Que s'est-il passé? Eh bien, 16 octobre, direction l'année 1793. Vous allez voir, c'est assez important pour l'histoire française. À tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, notre rétro sonore comme chaque samedi. Nous sommes le 16 octobre et aujourd'hui, direction l'année 1793, 4 ans après la chute de la Bastille à Paris et 10 mois surtout après l'exécution de son mari, l'ex-roi Louis XVI. La reine Marie-Antoinette était guillotinée à son tour, condamnée à mort pour haute trahison. C'est notre rétro sonore du jour, 16 octobre 1793, avec des extraits sonores du magazine Secret d'Histoire et des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Le 16 octobre 1793, à midi, la veuve Capet ou le destin hors du commun qui a basculé en 23 ans d'une jeunesse de conte de fées à la guillotine.
Déjà dans un autre monde, la reine de France perd ce soulier en montant à la bravade le sanglant marchepied du bourreau Samson. Trop aimé, trop haï. 1774, la France est amoureuse de sa rayonnante souveraine de 18 ans, le roi aussi. Hélas, Marie-Antoinette est une frivole, hautaine, dépensière. Elle s'étourdit de plaisir alors que les famines se multiplient. Ma fille court à grands pas vers sa ruine, fulmine Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche. Tour de poitrine 109, la coupe à champagne aurait été moulée sur elle, mais on pense plutôt au fameux bol sain du lait de la ferme de Trianon. La reine est belle femme et le sait. Chaque matin, dans cette extraordinaire gazette des atours, elle choisit ceux du jour, soit ou linon, soigneusement entretenus à la brosse. 100 à 200 robes nouvelles par an.
La reine est dépensière, cela se sait. L'affaire du collier éclate, le cardinal de Rohan démissionne, remet sa charge de grand aumônier du roi. Bien qu'innocente dans l'affaire, elle en sort éclaboussée.
La chienne d'Autrichienne, la calomnie, dit-elle, vaut beaucoup mieux pour tuer les gens, et c'est par elle qu'on me fera mourir. Les gravures graveleuses se multiplient, le trône tangue, la reine veut remplacer son fantôme royal de Marie. C'est la descente aux enfers.
Ce qu'on dit à la conciergerie, Robespierre et tout le comité de salut public, ne savaient pas s'ils allaient l'acquitter, l'exiler, la mettre en prison pour l'échanger, ou la mort, c'est-à-dire la guillotine et le procès.
La veuve Capet est désormais seule avec ce magnifique Christ, ivoire et ambre de la Renaissance, dont elle se sépare avant le cachot de la conciergerie. Procès truqué, inutile, l'opinion voulait sa mort. Le couperet tombera, non sans quelques bons arguments, pour haute trahison.
Aujourd'hui, deux siècles après, l'opinion des Français n'est pas forgée sur Marie-Antoinette. Parlez de Marie-Antoinette à quelqu'un. Vous verrez immédiatement son visage s'illuminer. Ah, la reine. Ou bien au contraire, se renfrogner. Ah oh, oui, Marie-Antoinette.
1789, les Parisiens sont en colère. Ils n'admirent plus le roi. Il fuit avec sa famille par les Tuileries et doit se réfugier à l'Assemblée. La reine pousse Louis XVI à lutter contre la Révolution, à se défendre. L'impopularité confine déjà à la haine. 1793, veuve Capet. A-t-il existé un complot tendant à allumer la guerre civile? Louis XVI est mort le 21 janvier à 39 ans. Elle devient aux yeux du peuple la panthère autrichienne, exécration de la nation. Sa beauté fait place à un masque d'incrédulité et d'horreur figée. On l'enferme à la conciergerie.
Vers 11h, on la fait monter dans une charrette très sale. Contrairement à Louis XVI, qui avait été emmené dignement à la guillotine, Marie-Antoinette est placée à l'arrière d'une carriole, à la vue de tous. Pour les révolutionnaires, ce trajet long de plus d'une heure doit être l'occasion d'une dernière humiliation. Mais la réaction du peuple de Paris est inattendue.
Le silence était total. Le peuple ne l'a pas insulté. Et l'émotion était profonde. Et Robespierre en avait peur de ça. Il a demandé à un ancien acteur, qui s'appelait Gramont, de s'habiller en garde nationale, de monter sur un cheval et avec un sabre à la main, d'insulter continuellement Marie-Antoinette sur le trajet de l'échafaud en disant « elle est foutue, la voilà, la garce, la salope, etc. » Et quand elle est montée sur le pont au change, les barques sur la Seine se sont arrêtées, les hommes se sont signés ou se sont découverts quand la carriole est passée.
Ces marques de respect que craignait tant Robespierre se multiplient pourtant tout au long du trajet. À midi, la reine finit par arriver place Louis XV, devenue place de la Révolution et connue aujourd'hui sous le nom de place de la Concorde. Sur cette même place où Marie-Antoinette arrive triomphante en carrosse après son mariage, l'attendent désormais la guillotine et le bourreau Samson.
Lorsqu'elle est sortie de la charrette, elle s'est précipitée. Elle est descendue toute seule, comme elle est montée, et elle a couru vers l'échafaud. Et quand elle s'est précipitée sur le plateau, elle est retombée sur le pied de Samson. Et là, elle s'est excusée. Et il lui a dit « Monsieur, je m'excuse, je n'ai pas fait exprès ». C'était ses dernières paroles, et à midi et quart, le couteau est tombé. Et elle est morte en héroïne. D'ailleurs, c'est ça qui frappe l'imagination populaire. C'est pour ça qu'elle est, après deux siècles et demi, elle est aussi célèbre que si on l'avait guillotinée avant-hier.
C'est un destin de tragédie, c'est un destin de tragédie antique. Marie-Antoinette a toujours eu des fans. Il y a un culte pour Marie-Antoinette qui se perpétue encore aujourd'hui. Et ce culte, je peux le comparer à celui qu'ont eu les fans de Diana après sa mort sous le tunnel de l'Alma.
Marie-Antoinette n'en finit pas de fasciner. C'est la seule reine de France universellement connue. Son nom évoque à lui seul les fastes de Versailles, les vertiges de la jeunesse et de la beauté. Sa volonté farouche de liberté et sa dignité dans les épreuves ont fait d'elle une héroïne qui, deux siècles après sa mort, hante toujours les couloirs de Versailles et de sa résidence privée, le Petit Trianon.
Vous êtes avec Radio SBS en français. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Laisse-moi chanter.
Et c'était Les Yeux de la Tête, donc ce groupe Les Yeux de la Tête avec cette chanson Laisse-moi chanter qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre. Allez, 13h35 minutes, on va faire une courte pause et le saviez-vous, vous pouvez faire votre propre soupe de miso, votre propre miso chez vous en Australie. On vous explique comment faire ça tout de suite après, donc c'est quelques publicités.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Bonjour, ici Audrey Bourget. Pour notre deuxième épisode du podcast À table Kitchen Conversations, on explore un ingrédient japonais qui s'est taillé une place dans les cuisines australiennes, le miso. Pour nous en parler, une artisane qui fait son miso depuis qu'elle est toute petite, Yoko Nakazawa. On ne peut pas parler de cuisine japonaise sans parler de miso, un ingrédient versatile avec un goût salé et fort en umami. Cette pâte de fèves de soja fermentée est entre autres nécessaire pour préparer la fameuse soupe miso et donne de la profondeur à plusieurs autres plats. Pour Yoko Nakazawa, qui a grandi au nord de Tokyo, le miso est beaucoup plus qu'un simple ingrédient. Sa famille fait le sien avec une recette qui a plus de 100 ans.
Dad,
was working full time, but also he was growing all the vegetable at the garden for the family. So for my mom, have to cook with them or preserve, because at the one season is just full of one thing, full of another thing. So we always thinking how to preserve, and then fermentation was one of the preserving way. Fermentation and preserving is just a natural, activity. It was always around me.
Quand Yoko Nakazawa est arrivée dans le Victoria il y a une dizaine d'années, elle a voulu partager ses traditions.
I was thinking and struggling what I can do in this place, new place, and then it was hard at the time, but as I normally do, I made miso just to try if it works in Melbourne condition, because it's all different climate, microbe. I wasn't sure if it's working, so I tried, and then a year later, I opened the container, and then happily it worked.
L'une des beautés du miso est que pour en faire, il ne faut que quelques ingrédients. Du koji de riz, des fèves de soja, du sel, de l'eau et surtout du temps.
First, you need to make rice koji, which is fermented rice. So, it's like two fermentation process to make miso. So, ferment rice first, and then after that, cook soybean and then mix with this fermented rice and then leave. My case, at least 1 year. When you mix all these ingredients, it's not yummy. For me, it's not yummy, but I found a lot of people said at the workshop, oh, it's already yummy, I can start eating. But for me, I need time to bring up all the flavor, very deep, complex flavor over the 1 year period. And then the enzyme will break down all the ingredients like protein and carbohydrate, and then become much sweeter and more umami. And I love the combination of all of the complex flavor. So a lot of waiting period.
Yoko Nakazawa vend son miso et offre des ateliers de cuisine sous la bannière Cooking with Koji. Elle a dû légèrement changer la recette familiale pour les conditions australiennes.
In Melbourne, it's definitely much colder than Queensland. So I found it 6 months is not enough. 1 year at least to bring the good flavor. I also have 3 years miso, which is much darker and more strong, really interesting flavor. And when miso become 3 years, we call it medicinal. So it's really good for us, and then makes our body much warmer and more antioxidant.
Elle propose des miso traditionnels, certains au goût plus doux et d'autres avec un goût plus intense qui sont fermentés durant plusieurs années. Et après avoir réalisé que certains Australiens étaient allergiques au soja et intéressés par différents grains, elle a aussi créé une gamme de miso qui déroge à la tradition.
So I created new flavored miso. In my family, we only make traditional one, but I made several interesting one, like using adzuki or chickpea or lentil. That's for people who has soybean allergies, and also using different grains like buckwheat and quinoa and what else? I made also 5-grain miso like quinoa, amaranth, millet, buckwheat, rice, or some sort of combination. Just interesting flavor.
Si le miso est toujours excellent en soupe, n'hésitez pas à improviser et à user de créativité.
What I do every morning is spread on a toast. So I make miso toast, and then it's really nice with egg or avocado. I often have both and then eat everything together. It's so nice. And also easy one is if you cook potato, toss up with miso. Such a beautiful, easy seasoning. Or little carrot, Dutch carrot, if you lightly brunch. And then just after that, mix with miso. It's so beautiful, simple dish you can make. Also, I like miso brownie. So you can definitely use for sweets. Miso caramel, we made ice cream. I collaborated with ice cream shop. Miso caramel or brownie, the aftertaste is, it's quite incredible. you don't need much, you just need a little bit, but the power of miso is quite amazing.
Pour vous tenir au courant des marchés auxquels participe Yoko Nakazawa et quand auront lieu ses prochains ateliers, ou simplement pour des inspirations culinaires, rendez-vous sur Instagram sur la page de Cooking with Koji.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir-ci.
C'était Arthur H. Vous aurez forcément reconnu la voix très typique d'Arthur H. Et cette chanson Nancy qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre. Allez, 13h47, on va parler d'Europe maintenant et de la relation qui change entre la Pologne et l'Europe. Tout ça, c'est dans Europa Voice avec Nathanaël Bloch. Europa Voice numéro 87, et comme chaque semaine, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, 87 déjà, j'allais dire, mais 87, on parle encore du Brexit. Et ça, c'est pas vraiment une surprise, parce qu'il y a d'énormes discussions entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Des discussions qui portent principalement sur les frontières, mais également sur la pêche. On va peut-être d'ailleurs parler de la pêche au départ. Pourquoi la pêche est-elle tellement au cœur du Brexit ? Les Anglais aiment tellement leurs poissons ?
Alors, c'est une très bonne question, Christophe. Non, la pêche est... Et j'allais dire, et au centre des sujets européens et du Brexit pour deux raisons principales. La première, c'est que vous savez qu'il y a des règles qui s'appliquent spécifiquement au territoire le long des côtes. Hein. Vous savez bien que les territoires marins, jusqu'à un certain nombre de kilomètres, appartiennent au pays qui a ses clés. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle les eaux internationales. Donc il y a toujours des conflits dans ces eaux entre pays voisins. Ça, c'est la première raison, j'allais dire globale, pourquoi la pêche est un enjeu. La deuxième raison, Christophe, et ça c'est intéressant parce qu'on va le voir de plus en plus dans ce Brexit, j'allais dire cœur du sujet qu'on a eu en 2019-2020, c'est qu'il y a beaucoup de points qui n'avaient pas été réglés à l'époque. On avait mis un petit peu la poussière sous le tapis, et donc là on voit un peu les deux parties, chacun tirer la couverture à soi. Et on a notamment ce dossier de la pêche qui, en ce début d'octobre, a attisé les tensions. Là, c'est sur un point spécifique, hein, c'est sur les licences de pêche. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un accord qui a été fait justement après le Brexit, parce que pour le Brexit, on voulait un petit peu tout valider, j'allais dire, le plus rapidement possible pour qu'on avance la situation. Mais on avait laissé comme ça des petites zones grises, et la pêche en faisait partie. Et donc là, c'est sur les questions de licence de pêche qu'on a, une position européenne commune, une déclaration qui avait été signée par 11 pays, dont la France, qui est en fait une critique assez cinglante des réponses qu'a apporté Londres dans ce dossier justement des licences de pêche.
D'accord. Alors, au-delà de la pêche également, eh bien, il y a les relations avec l'Irlande du Nord. On sait que ça a toujours bloqué de ce côté-là, et c'est vraiment depuis le début de la discussion. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Europe va un peu faire son grand bonhomme, j'allais dire, et prendre un peu sur soi, a tendance à dire, OK, est-ce qu'on peut parler autrement et aménager un petit peu la relation britannique-européenne et changer, et ça dans l'intérêt de la population britannique, j'ai l'impression.
Alors, ce point en fait de frontière, pour moi, il est assez semblable finalement à celui de la pêche. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous vous en rappelez, parce qu'on en a beaucoup débattu et on a essayé d'être assez pédagogique pour les auditeurs d'SBS, on avait la question du backstop, du filet de sécurité nord-irlandais, hein, de toute la question autour de la nécessité de ne pas recréer une nouvelle frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et donc, ce qui s'était passé, encore une fois, c'est que Européens et Britanniques étaient arrivés à trouver une solution, mais on savait très bien qu'il y avait une partie de poussière qui avait été sous le tapis. Et là, pareil, on voit maintenant les limites finalement d'avoir voulu accélérer sans avoir un accord compréhensif entre toutes les parties. C'est qu'on a toujours cette question des contrôles en Irlande du Nord. Alors, cette question-là, elle est double, Christophe. D'abord, elle est, encore une fois, comme dit, sur la nécessité de ne pas recréer une nouvelle frontière au sein du territoire irlandais. Ça, c'est quelque chose qui était primordial tout au long des négociations. Mais le minimum de contrôle douanier, pour la simple et bonne raison que et Britannique et Union européenne veulent se préserver d'avoir, du coup, Britannique et Européen à des taux douaniers préférentiels et inversement. Et donc là, en fait, c'est ce qui se passe là, c'est-à-dire que le gouvernement, la Commission européenne, elle a proposé de supprimer une majeure partie des contrôles qui sont imposés aux produits alimentaires britanniques qui arrivent en Irlande du Nord et d'alléger de manière plus globale les formalités douanières. Mais encore une fois, dans une certaine mesure, pour ne pas voir, une non-effectivité de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Parce que si le Royaume-Uni peut utiliser cette porosité de la frontière pour abreuver le marché européen de produits et inversement, c'est que finalement, on peut se passer des règles du marché commun, mais continuer à bénéficier de ses avantages. Et c'est évidemment un signal que l'Union européenne ne veut absolument pas envoyer pour éviter d'autres Brexit, d'autres sorties de l'Union européenne par d'autres pays européens.
Voilà, alors notamment, on en parle justement, il y a des velléités quand même qui continuent un petit peu à bourgeonner un petit peu en Europe, notamment les velléités polonaises. Aujourd'hui, la Pologne devient une espèce de petit problème à l'Est, alors qu'il y avait le problème à l'Ouest avec les Britanniques. Maintenant, il y a un problème à l'Est quand même avec les Polonais. Est-ce qu'on peut un petit peu détailler tout ce qui se passe en Pologne? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Pologne aujourd'hui et ses relations européennes.
Alors, pour paraphraser le film, effectivement, Christophe, à l'Est du Nouveau, mais je crois d'ailleurs qu'on avait titré un épisode d'Europa Voice comme cela. De manière, assez synthétique, on assiste en tout cas de plus en plus à une remise en cause de la primauté du droit européen sur les droits nationaux. C'est ce qui se passe de plus en plus dans les pays de l'Est, en Hongrie, et puis là, on le voit avec la Pologne, où la Pologne a décidé d'une certaine façon que le droit de l'Union européenne ne primait plus sur le droit national. C'est dangereux pour deux raisons, Christophe. C'est dangereux parce que, d'abord, c'est fausser le fonctionnement et la lettre d'esprit, de l'Union européenne, de considérer qu'il n'y a plus de suprématie du droit communautaire sur le droit national. C'est déjà, c'est faire faux bond à la lettre et à l'esprit de l'Union européenne. Et puis, deuxièmement, je pense que c'est ça aussi qui est très dangereux dans ce genre d'épisode, de micro-épisode finalement, parce que, encore une fois, c'est anecdotique, on va revenir dessus sur ce qui s'est passé, mais le problème, c'est que ça peut ouvrir, encore une fois, des brèches pour que d'autres pays s'engouffrent aussi dans cette voie-là. Et je pense notamment à la Hongrie, où on sait déjà que les velléités eurosceptiques d'Orban font que l'Europe est mise de manière assez régulière. Donc, c'est moins le risque d'un polexit, d'une sortie de la Pologne de l'Union européenne, que de voir comme ça des signaux faibles, comme on appelle en communication de crise, émerger et se répandre sur l'ensemble du territoire européen.
Mais justement, c'est intéressant comme point parce que vous parlez de la Hongrie. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé au cœur de cette Europa Voice au cré des années dernières, de l'année passée en tout cas, des velléités hongroises aussi et d'Orban et sa situation. Mais jusqu'à présent, on a presque l'impression que c'est plus important ce qui se passe en Pologne de ce qui se passe en Hongrie, parce que comment un État peut aujourd'hui décider, ça remet un peu tout en cause en fait, ça remet un petit peu la position européenne dans son État général, si un État en lui-même peut dire en fin de compte, on a vraiment essayé de rentrer en Europe depuis X nombre d'années, mais on va changer un peu la donne. Aujourd'hui, la loi européenne est en dessous de la loi polonaise, ça change tout quand même.
Je vous rejoins, Christophe, sur ce point-là. Effectivement, ce qui pour moi est dangereux dans le cas polonais, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus rationnel finalement que dans la posture orbanienne, où on sait que c'est quelqu'un d'extrême au pouvoir et forcément il va toujours essayer de mettre en danger finalement l'Europe. Peut-être que pour répondre à votre question, il faut revenir un peu à ce point de départ, ou à cette escalade, j'allais dire, plutôt entre la Pologne et l'Union européenne. Ce qui a déclenché cet épisode, c'est quand le 7 octobre dernier, la Cour constitutionnelle polonaise, donc la plus haute juridiction polonaise, qui a été saisie par le Premier ministre en place, a justement affirmé que la primauté du droit national, a affirmé qu'il y avait une primauté du droit national sur le droit européen. Donc ça, c'est vraiment ce qui a déclenché ça, c'est-à-dire qu'on a une cour constitutionnelle qui est saisie par le pouvoir politique en place qui déclare qu'on a un droit national qui prime sur le droit européen. Là où ça pose problème, Christophe, c'est que en fait, on a surtout une cour constitutionnelle polonaise, une juridiction suprême polonaise, qui en fait est instrumentalisée par le pouvoir politique. Vraiment, on a en tout cas une menace de la séparation des pouvoirs en Pologne. Et forcément, à partir de ce moment-là, comme on n'a plus une indépendance de la justice, on a en fait des leaders au pouvoir, en l'occurrence le parti Droit et Justice, PIS, qui est plutôt un parti conservateur, qui est un parti eurosceptique, qui va instrumentaliser, qui va nommer à la tête de cette cour constitutionnelle polonaise des juges qui vont aller dans leur sens, dans leur euroscepticisme, et encore une fois, menacer, remettre en cause cette primauté du droit européen. C'est une réponse aussi, et c'est là où c'est dangereux, c'est que c'est une réponse politique, parce que on sait que déjà il y avait eu des tensions entre l'Union européenne et la Pologne, et que l'Union européenne avait déclenché en 2017 l'article 7 du traité de l'Union, qui, pour rappel pour nos auditeurs, est la procédure la plus radicale prévue par les textes quand un État bafoue des règles européennes. Et donc, c'est là où c'est dangereux, Christophe, et j'insiste un peu dessus, c'est que c'est presque un règlement de compte politique par voie légale qui est en train de menacer l'Europe. Ce qui est différent de simplement une cour, j'allais dire, totalement indépendante qui va remettre en cause ou qui va interroger le droit européen. Là, on a l'impression, enfin c'est plus qu'une impression, Christophe, c'est qu'on a un pouvoir politique qui instrumentalise, encore une fois, une juridiction nationale suprême pour en fait décider de l'avenir de la Pologne dans l'Union européenne. Et donc, je vous rejoins pour répondre à votre question, c'est peut-être plus dangereux parce que c'est un symptôme qui est plus ancré, qui est plus fort que simplement un leader extrême avec certaines saillies extrêmes qui vont avec. C'est que là, on a un système qui s'attaque à l'Union européenne.
Voilà, si l'Europe vous intéresse, je vous rappelle que Europa Voice, c'est une série de podcasts que vous pouvez trouver sur votre application de podcast préférée. Simplement tapez Europa Voice. 13h58 minutes, retour sur les grands titres de l'actualité. Pour aujourd'hui, la Tasmanie qui entre en confinement après une violation de la quarantaine par un homme d'une trentaine d'années. Un député britannique qui a été poignardé à mort dans sa circonscription locale. Et en tennis, élimination du grec Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial au tournoi de l'Indian Wells. Voilà, c'est la fin de ce programme en français. Prochain rendez-vous avec l'émission en français, c'est demain à 13h avec Jean-Noël Ducas. Je vous laisse avec Benjamin Biolay et Marout. Quant à moi, je vous retrouve mardi. À bientôt.
J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.